Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'histoire de la Formule 1, championnat du monde automobile. Partie 2, de la deuxième moitié des années 1970 aux années 2000, les années fastes. La deuxième moitié des années 1970 est marquée par plusieurs innovations technologiques radicales. La plus spectaculaire, mais la moins efficace, est à l'initiative de Tyrrell, qui dévoile en 1976 son fameux modèle P34, une monoplace à 6 roues. Chaque demi-train avant est muni de 2 roulettes destinées à accroître l'adhérence tout en réduisant la traînée. Malgré la victoire de Jody Scheckter au Grand Prix de Suède 1976, et plusieurs performances de haut niveau, la solution ne fera pas école, d'autant plus que le coût des roulettes se révèle prohibitif. En 1977, Lotus dévoile son modèle 118, monoplace à effet de sol, dit également Windcar, car équipé d'un fond en forme d'aile d'avion inversée associée à des jupes latérales quasi étanches, ce qui engendre une puissante dépression et procure donc une tenue de route phénoménale. Après une saison de mise au point, Lotus écrase le championnat 1978, remporté par le pilote américain Mario Andretti. À l'issue de la saison, toutes les équipes emboîtent le pas à Lotus, mais Brabham a déjà réagi en mettant au point une monoplace dotée d'une turbine aspirant l'air sous la voiture pour produire un effet de sol encore supérieur. Après une seule course où Niki Lauda décroche une victoire aisée en Suède, le dispositif est interdit par le pouvoir sportif. Enfin, l'innovation la plus marquante de cette période est française. Renault faisant en 1977 ses débuts en championnat du monde avec un moteur turbo-compressé. Renault fait triompher pour la première fois son moteur turbo au Grand Prix de France 1979, démontrant la justesse de son choix. La révolution technologique qui agite la Formule 1 de la fin des années 1970 va de pair avec les grandes manœuvres politiques qui s'engagent. Réunis au sein de la Formula One Constructor Association, la FOCA, un groupe de pression destiné à défendre les intérêts, les principales écuries britanniques entendent de peser plus lourdement sur la direction de la discipline en profitant de la passivité de la Fédération internationale de sport automobile, la FISA, jusqu'à l'élection à sa tête en 1978 du Français Jean-Marie Balestre. Inquiets des performances du moteur Renault Turbo, les Britanniques demandent son interdiction, conscients qu'une technologie aussi pointue et coûteuse ne peut être maîtrisée que par les grands constructeurs Renault, Ferrari, Alfa Romeo. De son côté, la FISA entend améliorer la sécurité des Grands Prix et souhaite interdire les jupes, ces éléments aérodynamiques qui donnent toute leur efficacité au Windcar. Cette lutte d'influence entre la FOCA de Bernie Ecclestone et la FISA de Jean-Marie Balestre, connue sous le nom de conflit FISA-FOCA, laisse craindre un temps la constitution d'un championnat parallèle. L'organisation du Grand Prix d'Afrique du Sud en 1981 sous l'égide de la World Federation of Motorsport, fédération fantôme créée par la FOCA, ira d'ailleurs en ce sens, mais sans suite. Avant que les différents acteurs concernés ne signent, au printemps 1981, les accords de la Concorde, qui entérinent le partage des pouvoirs entre FISA et FOCA. Le pilote phare de la deuxième moitié des années 1970 est l'Autrichien Niki Lauda. Symbole d'une époque où les monoplaces deviennent de plus en plus sophistiquées et pointues à conduire, le pilote autrichien brille moins par son talent naturel que par son intelligence de course, sa rigueur d'analyse et sa force de travail, qui contribue à hisser Ferrari au plus haut niveau après une longue crise sportive. Il marque également les esprits en revenant victorieusement à la compétition après un grave accident sur le Nürburgring en 1976 qui le laisse partiellement défiguré. Outre ces deux titres acquis chez Ferrari en 1975 et 1977, Lauda en décroche un troisième en 1984 au volant d'une McLaren. Comme le souhaitait la FISA, les wildcards sont bannis à partir de 1983, tandis que les écuries britanniques acceptent la présence des moteurs turbocompressés. Elles acceptent d'autant plus que, loin de voir leur existence menacée par l'arrivée massive des grandes marques, elles s'en font des partenaires techniques. Brabham, dirigé par Bernie Ecclestone, le meneur de la FOCA, signe un accord de fourniture de moteurs turbo avec BMW à partir de 1982. McLaren fait de même avec Porsche, ainsi que Williams avec Honda. La prise de pouvoir des moteurs turbo se concrétise en 1982, titre mondial des constructeurs pour Ferrari, qui laisse toutefois échapper le titre pilote à Keke Rosberg sur sa Williams à moteur Cosworth atmosphérique. Puis en 1983, lorsque Nelson Piquet devient sur sa Brabham BMW le premier pilote sacré champion du monde à l'aide d'un moteur turbo. Les années turbo sont ensuite dominées par les McLaren, tag turbo de Lauda en 1984, et Alain Prost 1985-1986. Les Williams Honda, titre des constructeurs en 1986 et 87, titre des pilotes pour Nelson Piquet en 1987, puis les McLaren Honda en 1988, 15 victoires en 16 courses, et le titre pour Ayrton Senna devant son coéquipier Alain Prost. À la suite de la première retraite de Lauda, et avant que Prost ne s'impose comme le patron sur les Grands Prix, la Formule 1 connaît une brève et rare période de vacances du pouvoir, même si, avec deux titres mondiaux acquis en 1981 et 1983, un troisième suit en 1987, le Brésilien Nelson Piquet est le plus prolifique. Le pilote qui marque le plus les esprits durant cette période est le Québécois Gilles Villeneuve. Moins par son palmarès, seulement 6 victoires entre 1977 et 1982, que par son sens de l'attaque et son style agressif qui le conduisent à se tuer lors des essais du Grand Prix de Belgique en 1982. La Formule 1 des années 1980 est celle des années turbo, principale dominée par le Français Alain Prost, quadruple champion du monde en 85, 86, 89, 93 et qui bat le record de victoires établi en 1973 par Jackie Stewart. Ces années sont celles de la démesure en termes de puissance. À leur apogée, en 1986, les blocs turbo-compressés développent plus de 1400 chevaux en spécification qualification, la puissance étant réduite à 850 chevaux pour la course. Par mesure de sécurité, la FISA limite leur puissance dès 1987, puis les interdit totalement à partir de 1989. Si le retour des atmosphériques attire de nombreuses petites écuries, Scuderia Italia, Colony, Rial, Eurobrand, séduites par une réglementation a priori plus abordable, les motoristes Jude et Cosworth fournissent de nombreux blocs à un prix raisonnable. Ils ne changent rien au rapport de force. Les écuries, soutenues par les constructeurs généralistes, continuent à se tailler la part du lion. McLaren avec Honda, Williams avec Renault, Ferrari, à un degré moindre, l'écurie Benetton, soutenue par Ford. McLaren domine la saison 1989, marquée par la dégradation des rapports entre Prost et Senna, dont la rivalité passionne le public, puis s'impose avec plus de difficultés en 1990 et 1991, sa domination étant contrariée par Ferrari, renforcée par Prost en 1990, puis Williams-Renault. Cette dernière, en avance dans la maîtrise des aides électroniques au pilotage, ABS, anti-patinage, suspension active, boîte de vitesse semi-automatique, domine les saisons 1992 avec Nigel Mansell, puis 1993 avec Alain Prost. Cette domination est contrariée par l'émergence du prodige brésilien Ayrton Senna, titré en 1988, 1990 et 1991. À la fin de la décennie 80 et au début des années 1990, la rivalité Prost-Senna, tant en piste que hors piste, fait beaucoup pour le succès de la discipline. Si les amateurs se déchirent toujours quant au mérite sportif des deux champions, force est de constater que Senna possède en plus un charisme qui contribue à faire de lui l'un des sportifs les plus adulés de sa génération, tout sport confondu. Ce statut est renforcé par sa mort tragique lors du Grand Prix de San Marin, le 1er mai 1994. Après la retraite de Prost, et le décès de Senna, le jeune Allemand Michael Schumacher s'affirme comme le meilleur pilote de son temps. Au fil des années, il se forge l'un des plus beaux palmarès de l'histoire de la discipline. Il bat les principaux records établis par Fangio, Prost et Senna. À son talent et son agressivité sur la piste s'ajoutent des qualités de fédérateur qui permettent à la Scuderia Ferrari de revenir au plus haut niveau après une quinzaine d'années d'insuccès. L'interdiction de la plupart des aides électroniques redistribue les cartes à l'orée de la saison 1994. Mais le duel attendu entre Ayrton Senna, Williams Renault et le jeune Michael Schumacher, Benetton Ford, tourne court lorsque le triple champion du monde brésilien meurt lors du Grand Prix de Saint-Marin, le lendemain de l'accident mortel du novice autrichien Roland Ratzenberger. Avec deux morts en un week-end, dont celle de son pilote le plus populaire, le championnat du monde connaît ses heures les plus sombres. Aucun accident mortel en compétition n'ayant été déploré depuis ceux de Gilles Villeneuve et Riccardo Paletti en 1982. Montré du doigt pour avoir relâché sa vigilance en matière de sécurité, la FISA durcit rapidement sa législation, la mesure la plus spectaculaire étant la limitation des moteurs à 3 litres dès la saison suivante. Depuis le Grand Prix de Saint-Marin 1994, 4 morts sont à déplorer. Un pompier en 2000 et un commissaire de piste en 2001, tous deux tués par les débris consécutifs à des accidents, ainsi qu'un commissaire de piste en 2013, percuté par une grue transportant la Sauber d'Esteban Gutiérrez, ainsi que le pilote Jules Bianchi, décédé des suites de ses blessures lors du Grand Prix du Japon 2014. Sacré dans des conditions dramatiques en 1994, Schumacher conserve son titre mondial en 1995 au volant d'une Benetton désormais mue par un moteur Renault. Le motoriste français, qui équipe également les Williams, place ses 4 pilotes aux 4 premières places du championnat. En 1996, le départ pour Ferrari de Schumacher affaiblit Benetton et laisse le champ libre à Williams, qui réalise le doublé pilote-constructeur en 1996 avec Damon Hill, puis en 1997 avec Jacques Villeneuve. Le retrait de Renault ainsi que le départ de son ingénieur fétiche, Adrian Newey, mettent un terme à la domination de Williams, dont profite McLaren, renforcé par le dit ingénieur Newey, et dont l'association avec le constructeur allemand Mercedes commence à porter ses fruits. En demi-teinte depuis les départs successifs de Honda et Senna en 1992 et 1993, McLaren renoue avec les titres mondiaux en 1998 et 1999, deux championnats remportés par le Finlandais Mika Hakkinen. La restructuration de la Scuderia Ferrari, entamée en 1993 par Jean Todt, qui a successivement engagé le pilote allemand Michael Schumacher, ainsi que les ingénieurs Rose Brown et Rory Birm, trouve sa concrétisation avec le titre mondial des constructeurs acquis en 1999, le premier de l'écurie italienne depuis 1983. Ce sacre est le point de départ de la période de domination la plus importante de l'histoire de la Formule 1, puisque Schumacher remporte 5 titres mondiaux consécutifs de 2000 à 2004, portant son total personnel à 7 couronnes. Dans le même temps, Ferrari ajoute 5 titres des constructeurs à son palmarès. Cette domination culmine au cours des saisons 2002 et 2004, durant lesquelles Schumacher remporte respectivement 11 et 13 victoires. Afin de relancer le spectacle, le pouvoir sportif est régulièrement amené à modifier le règlement. Michael Schumacher est né le 3 janvier 1969 à Hürth-Hummerlein, en Allemagne de l'Ouest, avec 7 titres de champion du monde de Formule 1, 91 victoires en Grand Prix et 68 pole positions. Il possède l'un des plus beaux palmarès de ce sport. Après un apprentissage en karting, dans des formules monoplace, ainsi que dans le championnat du monde des voitures de sport, Schumacher commence sa carrière en Formule 1 lors de l'année 1991, en tant que remplaçant au pied levé de Bertrand Gachot, dans la jeune écurie Jordan, peu avant le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Dès le Grand Prix suivant, il est recruté par l'écurie Benetton Formula, avec laquelle il conquiert ses 2 premiers titres de champion du monde en 1994 et 1995. En 1996, il rejoint la Scuderia Ferrari, qui contribue à relancer après une longue période d'insuccès, signant au volant des F1 de Ferrari, 72 des 91 victoires, lui apportant 5 titres mondiaux des pilotes consécutifs de 2000 à 2004 et contribuant directement à l'obtention de ses 6 titres constructeurs. Il gagne ainsi le surnom de Baron Rouge. À partir de 1997, il a comme adversaire en piste son frère Ralph, de 6 ans son cadet. Les deux frères n'ont jamais couru au sein de la même écurie. Ils constituent l'unique cas en Formule 1 de deux frères ayant gagné des Grands Prix. Schumacher prend une première fois sa retraite à l'issue de la saison 2006. Son dernier Grand Prix au Brésil, le 22 octobre 2006, malgré une défaite au championnat du monde face à Fernando Alonso, est marqué par une spectaculaire remontée de la dernière à la quatrième place, ponctuée par une douzaine de dépassements, démontrant qu'il quitte la compétition en pleine possession de ses moyens. De 2007 à 2009, il officie toujours à la Scuderia Ferrari comme consultant et il reprend parfois le volant dans le cadre d'essais privés. Après un retour avorté en août 2009, à la suite d'un accident de moto et des douleurs au cou, Schumacher est de retour en Formule 1 en 2010 chez Mercedes. Il y effectue 3 saisons sans obtenir de nouvelles victoires. Le 4 octobre 2012, il annonce officiellement la fin de sa carrière en Formule 1, à l'âge de 43 ans. Le 29 décembre 2013, il est victime d'un grave accident de ski à Méribel, en Savoie. Il souffre d'un traumatisme crânien avec coma qui nécessite une intervention neurochirurgicale immédiate. Son pronostic vital est engagé. Il sort du coma le 16 juin 2014 et quitte l'hôpital de Grenoble pour poursuivre une phase de réadaptation au centre hospitalier universitaire vaudois de Lausanne jusqu'au 9 septembre 2014 où il est pris en charge à son domicile. On apprend en septembre 2016 qu'il ne peut pas marcher ni se tenir debout. Sa famille et son entourage proche tiennent à ce qu'aucune information sur son état de santé ne soit divulguée. Il va ainsi, les années suivantes, témoigner cependant d'une impossibilité à communiquer avec lui dans le documentaire Schumacher, sorti en septembre 2021. Cette période de 1990-2000 correspond à une implication sans cesse croissante des grandes marques dans la discipline. Alors qu'elle se contentait jusque-là du rôle de motoriste, laissant la conception des châssis aux spécialistes britanniques, elles s'investissent progressivement en tant que constructeurs à part entière. Mercedes-Benz devient l'actionnaire majoritaire de McLaren. Ford rachète Stewart Grand Prix en 1999 pour créer Jaguar Racing. Renault rachète Benetton Formula en 2000. Toyota fait son apparition sur les grilles en 2002. Honda rachète British American Racing en 2005. Et BMW rachète Sauber cette même année. En 2005 et 2006, en réalisant par deux fois le doublé pilote-constructeur avec Fernando Alonso, Renault met fin à la longue période d'hégémonie de la Scuderia Ferrari et devient le premier constructeur généraliste à être sacré. En 2007 et 2008, Kimi Raikkonen, Ferrari, et Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, sont champions du monde.
C'était la chronique de Gilles Labouroir à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.